monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
La Cour de justice de la CEDEAO à Abuja a ordonné le 12 décembre à la Sierra Leone de lever l'interdiction faite aux élèves enceintes d'aller à l'école, en vigueur depuis 2015. Pendant l'épidémie d'Ebola, des milliers d'orphelines ont été victimes d'abus sexuels et sont tombées enceintes, selon Amnesty International. En 2018, des groupes de la société civile ont contesté cette interdiction au plan régional, après l'échec de recours à l'échelle nationale. En rendant sa décision, la juge Diopatoki a déclaré que cette politique était discriminatoire. La Cour a également condamné un programme spécial du gouvernement, soutenu par la Grande-Bretagne et l'ONU, offrant une scolarité limitée aux filles. La création d'écoles pour adolescentes enceintes, où 4 matières sont enseignées 3 jours par semaine, constitue une violation du droit à une éducation égalitaire, a estimé la juge. Le Rwanda a annoncé le 11 décembre la suppression de la TVA de 18% sur les serviettes hygiéniques afin de les rendre plus accessibles aux filles, souvent obligées de manquer l'école pendant leurs règles. Le Rwanda est le dernier pays en date à abandonner la taxe controversée qui est dénoncée par de nombreuses organisations dans le monde, rappelant que les serviettes sont des produits de nécessité de base. C'est un pas dans la bonne direction, mais pas la solution ultime. Notre but est que les serviettes hygiéniques soient gratuites dans toutes les écoles, a déclaré Annette Mukiga, directrice de programme au réseau des femmes du Rwanda. Le Kenya est le premier pays à avoir supprimé les taxes sur ses produits d'hygiène. La Tanzanie a réintroduit cette taxe après l'avoir supprimée en 2018, au regard du fait que les revendeurs n'avaient pas baissé leurs prix dans la foulée de la suppression. L'État de New York va examiner un projet de loi interdisant les tests de virginité après la polémique suscitée par le rappeur Clifford Harris qui avait affirmé emmener sa fille chaque année chez le gynécologue pour vérifier qu'elle est toujours vierge. La députée démocrate Michaëlle Solages, à l'origine du projet de loi, affirme que ces tests portent atteinte aux droits des filles et femmes. Les examens de l'hymen ne sont pas nécessaires d'un point de vue médical et n'ont aucun fondement scientifique, a-t-elle dit. Ils sont souvent douloureux, humiliants, dramatiques pour les filles ou les femmes. Ils sont vraiment une forme de violence sexuelle, a-t-elle ajouté. Le texte soutenu par des démocrates et républicains doit être discuté par la Chambre basse du Parlement de l'État de New York à Albany en janvier 2020. L'Organisation mondiale de la santé a appelé à abolir les tests de virginité encore fréquemment utilisés dans une vingtaine de pays.
Parole de femme.
En République du Congo, les femmes se plaignent du mauvais traitement dont elles sont victimes pendant les rites de veuvage. Elles estiment que leur dignité est bafouée et demandent aux autorités de mettre fin à cette situation en interdisant ces pratiques dans le prochain code de la famille. Un reportage de notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
Les pleurs pendant le décès de l'époux ne symbolisent pas seulement la douleur de la veuve, mais également et surtout la crainte de vivre le pire moment de sa vie. Le veuvage, un ensemble de rites et de dures épreuves que redoute la femme congolaise. Anne-Marie Paul Bacan.
On barricade l'autre là, la chambre. Tu peux pas te laver, tu peux pas manger à l'heure où tu as faim. Et puis pour l'innovation de ton mari, on te demande 400 000, 1 500 000, 2 000 même. Surtout si tu travailles. Vraiment, c'est malheureux. Oui, on dénonce ça. Mais c'est la famille, la belle famille qui prend cette décision. Parce que là, maintenant, le mari est mort.
Très souvent, après le deuil du conjoint, la femme est mise dehors avec ses enfants. Une double douleur que dénonce la veuve Berthe Makita.
On te met dehors avec les enfants, alors qu'est-ce qui va devenir cette famille-là? Dans la rue, c'est pourquoi les enfants qui sont délaissés, on les retrouve dans les rues, ils deviennent des barbares, des bandits, des voleurs, des braqueurs, des bébés noirs.
Ces épreuves relevant de la tradition sont malheureusement appliquées avec vigueur par les femmes contre les femmes. Veuve Madeleine Miankaba.
Oui, par les femmes, mais nous serons là à conscientiser les femmes, surtout nous et les autres aussi qui viennent, nos filles aussi, qui seront plus tard aussi de veuves, elles aussi. Donc on sera là pour les conscientiser, pour arrêter tout ça.
Pourquoi, dans une société moderne comme le Congo, le poids de la tradition contraint encore les femmes à vivre un cauchemar qui remonterait des années 50? Professeur Auguste Miabeto, spécialiste des langues et traditions congolaises, à l'université Marie Ngouabi de Brazzaville.
Il y a une décantation des traditions qui doit se faire. Il y a des choses du passé qu'on ne peut plus récupérer aujourd'hui. Les valeurs vivantes peuvent demeurer, mais les antivaleurs, il faut les écarter. Les antivaleurs font très mal à la veuve. Il y a des traditions féminines qui sont là. Par exemple, la veuve qui est enfermée et qui est agressée par les belles-sœurs. Les hommes sont dehors, ils n'y sont pour rien. Bon, il faut éduquer la femme.
Pour aider les femmes à faire entendre leur voix, le QDOC, une ONG des droits de l'homme, a initié une démarche envers les autorités pour que le futur code de la famille abolisse clairement ces traitements inhumains et dégradants. Gaspard Mianantima, président du QDOC.
L'objectif visé, c'est de permettre à la veuve, un, qu'elle connaisse ses droits et qu'elle sache les défendre. Deuxièmement, elle doit s'investir à sortir la veuve congolaise de ce que nous appelons esclavage.
En attendant, les pleurs qui s'élèvent dans les veillées mortuaires au Congo traduiront toujours l'amertume d'une veuve maltraitée par sa belle famille. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
...93 millions d'enfants dans le monde souffrent d'un handicap physique ou mental. Dans certains pays, ils sont exclus et ont peu de chances d'être intégrés un jour dans la société. C'est le cas notamment en RDC, où beaucoup se retrouvent dans la rue ou dans des orphelinats en l'absence de structures d'accompagnement adéquates. Voici un reportage de Salwa Jafari qui a rencontré à Lubumbashi Marguerite Moussolet, fondatrice de la première école congolaise à système intégratif.
Karibou, 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 vous êtes les bienvenus.
Ici, tout le monde l'appelle Mama Magui. Marguerite Moussolet a grandi dans le Congo colonial, produit du système d'enseignement belge, et les Congolais avant tout, luchoises surtout. Cette école privée, c'est sa petite révolution. Nous sommes dans le seul établissement à Lubumbashi qui accueille des enfants souffrant de handicap.
Voilà, on tient ses mains pour pouvoir lui montrer qu'elle est capable de pouvoir le faire, mais elle n'est pas capable. Donc c'est en l'accompagnant tous les jours, en faisant une routine, qu'elle arrive finalement à le faire. On les connaît mieux quand ils jouent que quand ils sont en classe. Alors c'est comme ça qu'on les initie un peu à tout, mais en même temps c'est thérapeutique.
Dans chaque classe, 2 à 3 enfants à besoins éducatifs spécifiques. Des autistes, des enfants trisomiques, des enfants souffrant de 16 pathologies différentes qui interagissent avec leurs camarades. Les classes sont volontairement réduites afin de garantir un accompagnement aussi personnel que possible.
Nous encadrons 195 personnes vivant avec handicap mental, donc des besoins particuliers. Et ils sont catégorisés en 16 pathologies, dont la majorité est trisomique 21 et autiste.
Elle se base sur des méthodes qu'elle a apprises au fil des années. Pour mieux accompagner les enfants autistes, par exemple, elle n'hésite pas à rentrer en contact avec des experts aux États-Unis. Les dernières avancées, elle les partage aussitôt avec ses enseignants.
D'entrée de jeu, dès que l'enfant arrive, la toute première des choses, on commence par une consultation.
Et c'est à l'issue de la consultation qu'on sera déterminé les difficultés de l'enfant. Et c'est à partir des difficultés qu'on aura maintenant à établir un projet thérapeutique.
Sans l'école, je ne peux pas vivre.
Qu'est-ce que tu apprends à l'école?
J'apprends la lecture, l'énumération, l'opération.
Avec peu de moyens, l'école fait des miracles. Comme ce petit garçon qui n'arrivait pas à marcher quand il a été admis à l'école et qui peut aujourd'hui affronter fièrement les marches d'un escalier. Ou Yannick, dont le vocabulaire a énormément évolué depuis son arrivée. Dans quelques années, Yannick rejoindra peut-être cet atelier de menuiserie dans un autre local pour les enfants plus âgés, ou apprendra la couture. L'idée est aussi d'inculquer un métier à ces enfants souvent rejetés par la société.
La société a difficile à accepter les gens d'enfants. Les enfants qui ont chacun ces manques de pourcentage, je reviens encore, le pourcentage en lui. En général, la société rejette un peu, repousse ce genre d'enfants. Mon fils, c'est... D'abord, c'est un enfant très merveilleux. Oui, merveilleux.
Des enfants merveilleux. Mama Maggie a hâte que toute la société congolaise les voit ainsi. Que le gouvernement leur accorde plus d'attention. Mais pour une victoire contre l'ignorance, ces enfants, il faut d'abord les aimer.
Le métro de Moscou va former en 2020 des conductrices de train. En Russie, cette profession figure sur la liste des métiers considérés comme nuisibles à la santé des femmes. L'été dernier, le ministère du Travail avait annoncé avoir revu la liste des professions interdites aux femmes, qui est passée de 456 métiers à une centaine et devra être appliquée à partir de 2021. Depuis 2000, les femmes n'avaient pas le droit d'exercer tout métier lié au levage d'objets lourds, de conduire un bus, d'être parachutiste ou de pratiquer la mécanique automobile. Toutefois, les femmes conductrices, ce n'est pas tout à fait nouveau. Des femmes conduisaient en effet le métro de Moscou pendant la Seconde Guerre mondiale pour remplacer les hommes appelés au front.
Si je la trouvais.
Le mariage des enfants n'est pas seulement pratiqué en Afrique, Asie ou Amérique latine. Condamné par la communauté internationale qui le considère comme une violation des droits humains, le mariage des filles reste encore un problème aux États-Unis, où la plupart des États n'ont toujours pas relevé l'âge du mariage dans leurs lois respectives. Ainsi, plus de 2500 enfants ont été mariés entre 2000 et 2010. La majorité sont des filles mineures mariées à des hommes beaucoup plus âgés qu'elles. Un reportage d'Anouche Avétissian, relaté par Lionel Gaïma.
Une trahison dans ma propre famille. C'est ainsi que Friday Rice, qui a grandi dans une communauté juive orthodoxe de Brooklyn à New York, décrit ses 15 ans de vie dans un mariage arrangé. Après avoir échoué à divorcer, elle a obtenu un diplôme contre toute attente. Elle a économisé de l'argent et s'est enfuie avec ses deux filles. Freddy Reich est maintenant militante très engagée.
Ma famille et ma communauté me considèrent comme morte plus de 10 ans après.
Son expérience a fait d'elle une militante déterminée à lutter contre le mariage arrangé, forcé et le mariage d'enfants. Elle a fondé dans le New Jersey une ONG, Unchained at Last, qui signifie « Enfin libre » pour aider les victimes de mariage d'enfants. Depuis 2011, elle a aidé plus de 550 personnes à échapper à de tels mariages. En 2018, ses efforts ont conduit le New Jersey à devenir l'un des deux seuls États américains à interdire légalement le mariage de personnes de moins de 18 ans.
C'est vraiment choquant. Lorsque j'ai commencé à militer, le mariage de moins de 18 ans était légal dans les 50 États américains.
Dans la plupart des États américains, les jeunes sont autorisés à se marier à l'âge de 16 ans. Deux États américains autorisent les mariages à 14 ans et 13 autres États n'ont pas du tout d'âge minimum. L'Idaho a le taux de mariage d'enfants le plus élevé, avec plus de 400 000 mariages de ce type entre 2000 et 2010. En 2019, la représentante démocrate Melissa Wintrow a tenté de relever l'âge minimum à 16 ans, mais elle n'a pas réussi.
Compte tenu de l'histoire et de la nature conservatrice de cet État, j'ai proposé ce que je pensais être un compromis très raisonnable pour fixer au moins le mariage à 16 ans, ce qui correspond à notre âge de consentement et à nos lois sur le viol.
En 2019, la Louisiane a relevé l'âge minimum du mariage à 16 ans et la différence d'âge entre le conjoint quand on est mineur ne peut pas dépasser 3 ans. Kathleen Benfield, membre du forum Louisiana Family, était opposée à ce changement.
Ici en Louisiane, nous apprécions grandement le mariage et nous pensons que c'est une très importante institution, c'est le fondement de notre pays et de notre culture, notre société. Le mariage aide à élever et à nourrir les enfants. Le débat sur l'âge minimum du mariage a pris une sorte de tournure sombre en ce sens qu'il semble dénigrer le mariage.
Les législateurs et les militants contre les mariages d'enfants estiment que le problème est plus profond qu'un simple débat sur ce qui est une famille. La démocrate Melissa Wintrow, représentante de l'État de l'Idaho.
Si vous regardez la démographie des enfants qui se marient, ce sont des enfants blancs de la classe moyenne. C'est notre problème et il est profondément enraciné dans l'histoire sexiste dans notre pays.
Pour Freddie Reich, il n'y a pas de débat. Selon elle, les mariages d'enfants doivent être interdits car le gouvernement américain condamne de telles pratiques dans d'autres pays, les qualifiant de violation des droits de l'homme. Selon les données recueillies par son ONG, sur plus de 250 000 enfants mariés entre 2000 et 2010, la majorité sont des filles mineures qui ont donné en mariage à des hommes plus âgés.
Sur le continent africain, la randonnée devient un bon moyen d'allier sport, détente et même rendez-vous d'affaires. Au Nigeria, cette pratique est populaire près de la capitale Abuja, où de jeunes randonneurs se retrouvent régulièrement sur la colline de Katambé pour une marche amicale à la campagne, bien animée en musique. Yakuba Ouedraogo.
C'est une montée tout en musique pour ces jeunes Nigériens qui gravissent dans la bonne humeur la colline des Katambé qui jonche la capitale Abuja. Ces randonneurs amateurs s'adonnent à ce sport pour échapper au stress quotidien et aussi se faire de nouveaux amis. Joseph Babadé est fondateur de cette randonnée de masse.
La randonnée vous aide à vous connecter, à rencontrer des gens. Elle vous aide à vous faire des amis, elle est bénéfique au système corporel et aide les gens à découvrir des lieux.
Bisayo Boussari est avocate. Pour elle, ce genre d'activité sportive contribue à renforcer la cohésion sociale.
Je pense que les Nigérians devraient prêter attention à ce genre de collaboration parce que beaucoup de jeunes gens au Nigeria se rassemblent pour célébrer l'unité dans ce pays. Donc à travers la randonnée, vous arrivez à rencontrer des personnes de différentes tribus, de cultures différentes, des orientations différentes en affaires.
L'unité, les rencontres, les affaires, oui, mais tout cela à travers le sport. Et tous les moyens sont bons pour atteindre le sommet de la colline. Une fois là-haut, c'est à cœur joie que les randonneurs s'adonnent à la danse et aux selfies. Ils profitent au maximum de ces moments de détente, alliant sport et plaisir. Riel Ghetto est entrepreneur.
Nous nous assurons d'inclure le plaisir dans ce que nous faisons. Autant que nous pratiquons le sport, nous nous amusons aussi. Et puis vous pouvez le voir, c'est bon pour la santé.
Ce groupe de randonneurs compte actuellement plus d'une centaine d'adhérents dans la capitale nigériane, cette grande ville qu'ils peuvent contempler du haut de la colline.
Et oui, et si la jeunesse pouvait.
La Suède, le HCR et la Fondation Grameen ont lancé un projet de microcrédit pour soutenir les populations déplacées et réfugiées en Ouganda. 100 000 personnes, dont 70% de femmes, sont éligibles à un prêt pour créer leur activité dans l'agriculture, l'artisanat ou le commerce. L'agence suédoise de développement international va apporter 8,4 millions de dollars pour garantir les prêts et pour les programmes de formation et d'assistance technique. De nombreux réfugiés manquent de possibilités de subvenir à leurs besoins dans le pays où ils ont trouvé refuge, notamment parce qu'ils n'ont pas accès au capital et n'ont pas le droit de travailler, souligne l'organisation suédoise.
Entre parenthèses.
Le naturel en ville, c'est ainsi qu'a été baptisé un événement qui s'est tenu à Lomé au Togo début décembre. Il s'agissait d'une journée de rencontres et d'échanges dans une ambiance festive visant à promouvoir l'identité africaine et la beauté noire tout en valorisant les artisanes qui fabriquent des produits cosmétiques made in Togo. Un reportage de Kei Lossan.
Le naturel au service de la beauté et des valeurs humaines, c'est le thème central de la deuxième édition de Natural in the City, un événement conçu pour promouvoir la culture noire et les valeurs africaines.
Natural in the City, c'est un carrefour d'échanges pour promouvoir le domaine du cosmétique naturel, de la beauté noire, de la faux-style et surtout valoriser les petites mères artisanes.
Le concept séduit et pousse à la réflexion sur la revalorisation de l'identité noire.
C'est important aujourd'hui pour qu'on apprenne à nos sœurs qui viennent de savoir s'apprécier à l'état naturel. Donc Natural in the City, je pense, table surtout sur ça. Comment se revaloriser? J'aime beaucoup le concept parce qu'il vous permet de retrouver nos valeurs, le naturel, retrouver tout ce qui est culturel de chez nous. Et je trouve que c'est valorisant déjà de pouvoir repenser au retour aux sources.
Cette journée de Natural in the City a été marquée par un panel qui a mis l'accent sur l'essence et la signification profonde du retour aux sources.
Le retour naturel pour moi, c'est une question d'identité d'abord. C'est une question de fierté. C'est une question de développement. C'est une question de création d'emplois en même temps. Donc, ce retour naturel, on ne le fait pas juste parce que c'est de la mode, non.
Si aujourd'hui, le retour aux sources n'est plus perçu comme une mode, mais plutôt comme une question de développement, l'Afrique est donc invitée à repenser son modèle de développement, assure-t-on, dans les couloirs de cette rencontre qui est sans doute dans l'air du temps. Kei Lossan pour VOA Afrique, Lomé.
Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Sur notre site internet, visitez aussi voaafrique.lmf pour consulter nos articles, vidéos, interviews et les autres éditions déjà parues. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.